Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International après cette soirée très animée sur les pelouses européennes, cette troisième journée de Ligue des Champions, première des deux soirées de la semaine et des résultats qui vont compter, vous allez l'entendre. On commencera par cette victoire de l'Inter Milan, c'était à Giuseppe Meazza, là-bas du côté de Milan, 1-0 face au FC Barcelone. Pour ce qui est donc victoire de Nerazzurri. On a aussi le Bayern qui l'a emporté, très très nette victoire, 5-0. Et puis l'OM, enfin vainqueur dans cette Ligue des Champions grâce au réveil de son équipe, peut-on dire, mais on verra aussi qu'il y a des circonstances atténuantes pour le Sporting Lisbonne, victoire 4-1. On évoquera aussi le match de demain du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui jouera lui aussi contre une équipe de Lisbonne, mais ce sera le Benfica et ce sera au Portugal. Et puis nous évoquerons cette ville de Paris qui boycottera le Mondial au Qatar après de nombreuses communes en France et ailleurs. C'est la capitale et le siège du Paris Saint-Germain qui ne diffuseront pas les matchs sur écran géant. Y a-t-il une logique à tout cela? Vous entendrez la réponse de nos confrères. Pour l'instant, j'accueille dans ce studio à cette heure tardive Chérif Guémour. Bonsoir Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et Franck Simon, bonsoir Franck.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Soirée animée, hein, il n'y avait pas de quoi s'ennuyer devant
non,
les
non.
écrans.
Il y a eu des buts.
Il fallait avoir beaucoup d'œil aussi, différents sur, yeux sur différents terrains pour tout repérer les moments charnières notamment. David Finzel, bien sûr, est là fidèlement et il écoute tout ce qui se passe encore et ce qui se dit, surtout à la sortie des pelouses. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Correa, Lautaro Martinez pour la reprise. Le bras était collé au corps, ça va revenir avec Çalhanoğlu, nouvelle frappe. Et l'ouverture du score des Nerazzurri. L'Inter grâce à Çalhanoğlu. C'est fini cette fois, Slavkovic Pitic siffle la fin du match. L'Inter tient son match de référence. L'Inter tient son exploit dans ce début de saison. L'Inter a fait tomber le Barça. Ça n'était pas arrivé depuis 2010.
Vous venez de l'entendre de la voix de nos confrères de beIN Sport. L'Inter a donc accompli l'exploit de l'emporter face au FC Barcelone. Un sacré match entre ces Nerazzurri et ces Blaugrana. C'était important puisque dans ce groupe C, où ils se trouvent aussi avec le Bayern Munich, eh bien ces deux équipes étaient à égalité. Une victoire, une défaite et il fallait faire la différence. Ce sont donc les joueurs de l'Inter Milan qui l'ont faite. On va en parler tout de suite avec notre correspondant à Milan, Matteo Cioffi. Matteo, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Annie.
Il s'en est passé des choses sur cette pelouse. Hein. On était tous les yeux rivés sur cet écran parce que les Nerazzurri ont ouvert le score et c'était en fin de première mi-temps. Et ensuite, il a fallu tenir face à une équipe du FC Barcelone plus qu'entreprenante, Matteo.
Ouais, on peut imaginer une situation comme ça. Monsieur Inzaghi, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Allez, tout va bien, vous êtes sains et saufs pour l'instant.
Mmh, ouais.
mais c'est vrai que ce soir, le technicien a retrouvé vraiment la bonne mine qui lui redonne de l'espoir pour son poste, tout d'abord parce que ça fait pas mal de jours qu'on est en train de discuter de son éventuel licenciement. Et du coup, il relance son équipe dans la lutte pour décrocher une place dans les huitièmes de finale. C'était impensable,
Matteo,
avant ce match.
La réaction des supporters était sans doute à l'unisson de tout cela. Ils ont beaucoup chanté à la fin du match.
Ils ont beaucoup chanté et ils ont même évité de siffler au début l'entraîneur parce que, vous savez, depuis le début de cette saison de l'Inter, qui n'est pas vraiment un début très encourageant, les choix de l'entraîneur ont fait beaucoup discuter et n'ont absolument pas plu aux tifosi. Et on l'a vu sur le terrain à l'Inter, sauf ce soir vraiment, parce que ce soir, je ne sais même pas reconnaître cette équipe que j'ai eu l'occasion de voir même pendant pendant le derby et dans des autres matchs. C'est vraiment une Inter qui a changé complètement de système de jeu. Ils ont créé des actions, il y avait des idées, c'est ça qui manquait à l'appel avant.
Sherif Guémour, c'est vrai qu'on a vu cette équipe, on s'attendait à un gros match, et c'est ce que vous me disiez quand on a commencé à regarder la partie, les troisièmes matchs, hein, ça se joue en six, les matchs de poule ça se joue en six matchs, et là c'est le troisième et c'est celui où
déjà c'est celui qu'il faut pas perdre, parce que là évidemment le Bayern est largement en tête, on reviendra là-dessus, mais c'est la deuxième place va jouer entre l'Inter et le Barça, c'est le match qu'il fallait pas perdre. J'étais inquiet pour cette Inter qui ne va pas bien en championnat. Je pense quelque part que les joueurs ont sauvé la tête de Inzaghi ce soir. On l'a vu, de toute façon, ils étaient vraiment impliqués. Il y a une intensité. Ça n'a pas été extraordinaire. Mais d'abord, ils ont bien laissé passer la première vague du Barça. Ils ont marqué quand il le fallait, c'est-à-dire juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont bien tenu malgré les assauts du Barça. Et moi, c'est une Inter qui me fait plaisir aussi. Parce qu'ils se remettent dans éventuellement une qualification pour les huitièmes, ce qu'ils n'avaient pas fait ces dernières saisons par manque de chance, parce qu'ils étaient toujours dans des groupes de la mort. Et là, au bout de trois matchs, l'Inter a son destin en main.
Franck Simon, ce match.
Ça a été dur, ça a été compliqué. Il a fallu un brin de réussite aussi parfois à l'Inter.
On a eu,
de la réussite et de la chance. On a eu un André Onana parfois décisif, parfois qui nous a fait quelques frayeurs, mais ils ont réussi quand même à mettre sous les ténoirs. Quelqu'un comme Lewandowski.
Qu'on n'a pas vu.
Voilà,
ce qui est dans la tenaille.
Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien sur la scène européenne. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour cela, je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé. Et puis c'est bien. Ça veut dire que c'est eux qui ont mis la pression dès ce soir sur le Barça. Le groupe est plus que jamais intéressant. Le Bayern s'est échappé, mais derrière, ça reste très, très intéressant, d'autant qu'ils se retrouvent dans quelques jours pour la journée numéro 4.
Et oui, puisque ce sont des matchs aller-retour et c'est le match charnière. Matteo, en plus, jusqu'à la fin, il a fallu lutter. On a vu beaucoup de changements aussi effectués.
8 minutes d'arrêt de jeu.
Minutes de temps additionnel. C'était vraiment une torture pour toute cette équipe de l'Inter.
Oui, un match qui a duré à la fin 100 minutes. Là, en ce moment, j'étais en train de regarder un peu les titres des sites internet et qui disent un peu ce que vous venez de dire. La République titre « Voilà l'orgueil ». Donc, c'est un orgueil qu'on a vu surtout dans le dernier quart d'heure où le Barcelone a commencé vraiment à appuyer sur le championnat, mais l'Inter a tout à fait maîtrisé, à mon avis, l'adversaire. Même là, le Corriere, il vient d'écrire « La nuit du rachat ». Inter, c'est la nuit du rachat. Ou « Gazzetta, cœur Inter ». Cette victoire pèse énormément. Donc, il y a vraiment la presse qui a compris cette belle victoire, ce qui pourrait signifier... ça pourrait vraiment donner une autre... permettre à l'Inter de suivre un autre parcours, surtout en championnat, parce que là, les choses vont mal. Jamais aussi mal. Une seule fois, ils ont égalé le record négatif, qui datait de 2010-2011, où l'équipe avait totalisé seulement 12 points dans les 8 premiers matchs. Donc c'est vraiment, ça pourrait être le tournant pour les Nerazzurri.
Il
s'est passé quelque chose, parce que c'est vrai qu'en championnat, Franck, ça va mal cette équipe. Ils sont 9e à cette heure.
8 points du leader.
Voilà, ils sont très loin.
C'est pas fini, il faut se ressaisir vite, sinon ça va être le trou noir en championnat.
Clairement, c'est le genre de match où ça peut servir de déclic. Quand tu arrives à sortir un tel match sur le plan athlétique, sur le plan tactique, sur le plan mental,
la solidarité,
ce mental très très fort et ce lien avec le coach, tu dois t'en servir pour les matchs prochains et te sortir de cette zone très 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 mal engagé. Quoi.
Surtout qu'il y a eu beaucoup de situations très très délicates avec le Barça qui lui certes s'est mobilisé assez tardivement, mais on voyait notamment même Piqué et tout le monde aller à l'assaut des buts d'Onana.
Dans ces moments-là, surtout quand on subit, surtout avec des arrêts de jeu aussi longs, il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas faire une main, il ne faut pas bousculer.
Être sobre.
Faut être sobre, ne pas concéder de pénalty, parce qu'en général, dans la panique, c'est toujours ce qu'on fait.
D'ailleurs, souviens-toi, il y a eu cette situation.
Oui, bien sûr, oui, voilà, tout à fait. Il a fallu attendre. Mais je vais donner un exemple précis qui nous concerne. C'est le PSG, c'est le cas Skriniar. Skriniar, c'est un très bon défenseur axial.
De l'Inter.
Le PSG garde toujours un œil sur lui. Skriniar est sur son contrat fini en 2023, donc il a toujours pas re-signé. Je pense qu'un Skriniar, bon, après il y a une proposition de l'Inter, est-ce qu'elle sera suffisante, peu importe, mais Skriniar, si ce soir l'Inter est battue, elle est quasiment éliminée, enfin ça aurait été, c'était fini, Skriniar partait quasiment certain au PSG. Maintenant que l'Inter revient dans la course en Ligue des Champions, pour peu qu'ils refont 2-3 résultats à l'Inter, il va peut-être signer. Ça se joue aussi à ces détails-là. Parce que ce soir, si l'Inter perd, quasiment certain, Skriniar partait à la trêve.
Alors, Franck, moi j'aimerais qu'on parle évidemment d'un des personnages de ce match, et c'était le gardien André Onana, qui ne joue pas le championnat, mais qui l'a joué ce soir. Il jouait gros, et ça n'a pas été simple.
C'est pas simple quand on est quand on arrive comme ça dans un club où il y a une icône qui est Handanovic.
Qui est encore performant, il faut le dire.
Qui reste performant, qui, je crois, porte le brassard quand il joue.
Absolument. Ouais.
Et c'est un symbole adoré des supporters de l'Inter, etc. Mais lui aussi est un joueur très important pour son pays. Il est arrivé de l'Ajax.
C'est un choix difficile qu'il a fait.
Oui, mais ce n'est pas rien. Et on le voit que pour l'instant, en Ligue des Champions, on l'avait vu notamment briller contre le Bayern, mais bon, il avait simplement retardé l'échéance, mais de quelle façon ? Ouais. Ce soir, il s'est montré décisif. Il est souvent, il est bon parce qu'il est sobre et parce qu'il intervient au bon moment. Il y a eu un petit peu de flottement sur un ou deux ballons, notamment en seconde période, mais il s'est vite ressaisi parce que c'est quelqu'un qui a un fort mental, parce que c'est un gardien, malgré tout, qui reste sobre. Et il n'y a qu'à voir les tapes dans le dos de ses partenaires, de ses coéquipiers. Ils savent que voilà, quand il est là, il se montre quand même très rassurant. Et il n'a pas tremblé. Hein. Face à lui, il avait quand même Lewandowski. Mm-hmm. Il n'a pas tremblé un seul instant. Lui aussi a vraiment, je trouve, beaucoup contribué à ce beau succès.
Et on va l'entendre, André Onana, en sortie de terrain.
C'était le but de jouer les plans du Barça. On savait à quoi s'attendre. On savait qu'il devait avoir le ballon. Et on a joué notre game, on a joué notre match, on a été compact, on a soufflé qu'on avait le ballon, on a joué en contre et on a souffert ensemble. Je pense que c'est la clé de cette victoire. On a tout donné, on était tous ensemble, c'était important pour nous de gagner ce match. Et honnêtement, ça nous permet de bien respirer et de mieux se préparer pour affronter l'échéance à venir.
Même le gardien est essoufflé.
On l'entend,
Ouais.
Et ce mot quand même qui revient, hein, tous ensemble.
Ensemble. C'est un garçon formidable en plus, au-delà d'être un grand gardien. Lui, il a la Coupe du Monde au bout avec son pays. Ce n'est pas simple. Il est quand même titulaire. Et de sortir des performances
titulaire
comme ça.
Titulaire avec le Cameroun, mais pas titulaire dans son club.
Quand on arrive dans ce genre de club, comme tu le disais, avec un gardien emblématique, le gardien emblématique, il peut jouer. Et ce genre de gardien peut jouer jusqu'à 40-41 ans. Parce que quand tu veux vraiment ta place en Italie, il y a vraiment des dynasties.
Puis il a une hygiène aussi, Handanovic. Hein, il n'est pas là par
hasard.
Donc
voilà, ça fait du temps en plus à attendre et puis perdre ses moyens, perdre sa compétitivité. Donc voilà, pareil, c'était pour Onana le match à ne pas perdre ou à rater ce soir, surtout pas.
Matteo Cioffi, j'imagine que vous aussi, vous l'avez remarqué ce soir, André Onana.
Oui, tout à fait. Même s'il faut dire, là, il faut être honnête, il n'a été jamais vraiment très inquiété dans ce match. Il a dû.
Ça, c'est vrai. Ça, le Barça n'a pas énormément d'occases dangereuses.
Il a la main ferme quand même, Matteo. À un moment donné, il sort un ballon très très chaud, hein, à bout portant. Et il y a deux trois centres où il faut y aller. Il faut se mouiller, comme on dit dans le jargon. Et je trouve qu'il a quand même eu des ballons. Il n'en a pas eu 50, mais je trouve qu'il a eu quand même des interventions.
Et des bonnes prises de balles.
Oui, des bonnes prises de balles, ouais.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et vous savez que Onana est une des raisons de la querelle entre Simone Inzaghi et l'opinion publique qui lui demande mais pourquoi ne pas utiliser ce gardien aussi en championnat, car en championnat, l'Inter a encaissé quelque chose comme 18 buts en 8 matchs, 14 buts, pardon, en 8 matchs. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment comment dire, motiver un tel choix. Donc Onana, et on en parle beaucoup, même s'il a joué seulement 3 matchs et pas des matchs simples, vu que c'est le gardien de la Ligue des Champions. Mais c'est lui que les tifosi, l'opinion publique, désirent maintenant voir dans la cage de l'Inter.
C'est fort quand même. Hein. Mm-hmm. Ça veut dire. Il est là, je pense, il est là pour la suite, parce que Andanovic, il n'est pas éternel, comme Rome. Donc, à un moment donné, il faut passer le gant, quoi, il faut passer la main, et Onana sera là pour ça. Donc, son heure viendra. Elle est déjà là en Ligue des Champions.
Il est programmé.
Vous êtes en Italie où il y a un certain Buffon qui continue à jouer, donc il faut rester très calme avec l'âge. Surtout si on parle d'un gardien.
C'est ce que je dis, quand un gardien est motivé, il peut aller jusqu'à 41 ans. Ouais.
Alors Mathéo, restez avec nous parce que la nuit a été importante pour les clubs italiens. Mais avant, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce groupe. Donc, dans ce groupe C, on a aussi le Bayern Munich. Et le Bayern Munich est isolé finalement en tête de ce groupe. Il a les 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Une victoire très nette et sans bavure, Sheriff Guémour, 5-0.
Ben pareil, ils se sont rassurés, ça ne marchait pas trop en championnat. Bon, là, ils ont gagné ce week-end, mais ils étaient sur 4 matchs nuls en Bundesliga, enfin 4 matchs en victoire. Donc là, du 4-0 ce week-end, 5-0, 9 buts entre 4 jours. Et non, puis c'est bien, c'est que c'est les attaquants qui ont marqué. Ça, ils en avaient besoin. Un but de Sadio Mané,
ouais, un doublé. Il y a un doublé de Leroy Sané, il y a un but aussi de Choupo-Moting.
Niabri.
Les attaquants ont marqué, ils se sont rassurés.
Pour Sadio, quand même une mention spéciale, passeur décisif.
Très beau but.
Et un très joli but du gauche.
À la Wea.
Ouais. Franchement, une très belle prestation, une prestation tel qu'on le connaît, et ça c'est bien tout ça, parce qu'on surveille naturellement la performance de ces grands champions africains en vue de la Coupe du Monde. Ce type de match, ça aide aussi, même si c'était contre Pilsen, et je trouve qu'il a, voilà, il s'est rappelé au bon souvenir de ceux qui le critiquent. Les qualités, elles sont là, il ne les a pas perdues, et des fois faire un petit tour en sélection, ça redonne un petit coup de boost, comme pas mal d'autres d'ailleurs, et ça s'est vu ce soir.
En tout cas, voilà, ce groupe C, Bayern, Inter pour l'instant, qui ont pris une option, mais évidemment, le Barça n'a pas dit son dernier mot. Alors Matteo, belle soirée aussi pour les clubs italiens avec le Napoli.
Cavaracciglia, le centre, et Di Lorenzo, cette fois-ci qui la met au fond, et le Napoli repasse devant. La première est passée à côté, la deuxième est au fond des filets. Et bravo à Giovanni Di Lorenzo. Quel match.
C'est l'Ajax Amsterdam qui, à Amsterdam, avait ouvert le score. Et puis, il y a eu une pluie de buts. Le score final, 6-1. Énorme. Et Matteo Cioffi, peut-être que vous, ça vous étonne moins. Ces Napolitains, actuellement, sont les premiers de la Serie A. Et pour l'instant, c'est une équipe qui impressionne.
Oui, on a vraiment épuisé tous les adjectifs pour décrire cette équipe merveilleuse, époustouflante, impressionnante, vous venez de le dire. C'est vraiment un bonheur de l'avoir joué, et c'est aussi une machine infernale à but pour les adversaires. J'en comptais avant, alors ils en ont marqué 13 en Ligue des Champions et 18 en championnat. Ça fait 31 buts en 11 matchs. 11 matchs officiels dont il n'y a eu aucune défaite. 8 victoires... Pardon, 9 victoires et 2 matchs nuls. Et en plus, ce soir, le Napoli a établi son record personnel en Ligue des Champions, car il n'avait jamais gagné les 3 premiers matchs en Ligue des Champions. Et je crois aussi que c'est l'équipe qui a infligé à l'Ajax la plus lourde défaite à domicile de son histoire, toujours en Ligue des Champions. Moi, j'ai un souvenir du Real de Madrid en 2010, mais c'était 4-0. Là, c'était 6-1 ce soir. Donc, je crois qu'il y a un petit record dans l'air. Hein.
Il me semble. Ouais, tout à fait.
Chérif, il sait tout, donc...
Non, mais à domicile...
Il sait tout sur l'Ajax.
À domicile, non, j'ai pas le souvenir d'un score aussi lourd. Donc,
qu'est-ce qui leur est arrivé, cette équipe de l'Ajax
Cette équipe d'Ajax, bon déjà, je pense, ça c'est personnel que...
Ah, il a parlé du gardien, j'en suis sûr.
Ouais, le gardien Passevert, pour moi, c'est pas un super gardien, mais il y a pas que ça. C'est une équipe qui est jeune, qui est en reconstruction. Mm-hmm. Alors,
voilà, c'est ça, qui a perdu son entraîneur quand même à la mi-saison, et c'était quand même quelqu'un de symbolique.
Alors d'un côté, c'est jeune, puis de l'autre côté, ça vieillit aussi avec Tadic, qui peut plus porter l'équipe sur ses épaules comme il l'a fait. En championnat, c'est pas super. Ils sont deuxième à un point de Alkmaar, il me semble. Mais ils ne règnent pas. Ils n'écrasent pas le championnat des Pays-Bas actuellement. Donc voilà. Et sinon, voilà, ça reste jeune et inexpérimenté et contre des grosses, grosses mécaniques. Moi, personnellement, j'étais inquiet hein, contre Naples, contre Liverpool et Naples. Déjà, contre Liverpool, ils auraient dû en prendre 10. On se souvient du match. C'était vraiment entre les poteaux, les barres. Enfin, bon, bref. J'ai peur que cette équipe ne soit pas taillée pour la Ligue des Champions.
Franck ?
Alors, non seulement ils ne sont pas taillés pour cette compétition, mais le Napoli Calcio est au-dessus du lot, très au-dessus du lot. Il ne faut pas minimiser.
Ils sont à 9 points. Et le Napoli, quand ils ont mis c'est quoi, 4-0 à Liverpool, c'était pas un accident. Ils les ont vraiment écrasés.
C'était une soirée fabuleuse.
Voilà.
Dans le jeu, on se régale. C'est pour paraphraser ce que disait à l'instant Matteo, de les voir évoluer, cette fluidité, notamment en possession du ballon, quand ils se projettent vers la surface adverse. C'est du régal pour le public. Et à l'Ajax, il y a une culture du beau jeu, mais là, ils l'ont vu face à eux aussi.
L'Ajax est incapable de fermer le jeu de toute façon.
Ouais, ils en ont profité. Il y a eu des vagues successives.
Il y a eu des contres classiques.
Et c'est quand même. Alors, on se régale sur ce premier tour. Moi, ce que j'espère, c'est que le Napoli sera à la hauteur dans les tours suivants. Parce que c'est toute la difficulté quand le niveau s'élève.
Tu sais que l'Italie ne fait pas la Coupe du Monde.
Oui.
Vous êtes sûr?
Oh pardon,
Matteo.
Arrêtez.
J'ai retourné le couteau dans la plaie.
Le pauvre Matteo.
Non, ça fera des joueurs plus frais quand même.
Merci beaucoup en tout cas Matteo d'être resté en direct avec nous dans cette longue soirée de Ligue des Champions. Merci beaucoup et à plus tard donc avec des clubs italiens qui marquent leur soirée en Ligue des Champions.
Pas mal.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci beaucoup.
Ciao.
Dans ce groupe, il y a Liverpool. Liverpool qui a remporté son match, c'était à domicile. Liverpool 2-0 face aux Glasgow Rangers. Bon, ils en ont peut-être.
Avec du Mo Salah notamment.
Voilà.
Des coups de pied arrêtés. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté.
Coup franc et penalty.
Ouais. Voilà, donc
magnifique coup franc dans la lucarne de Alexander Arnold, ouais. Et ensuite un penalty du pied gauche incroyable de Mo Salah.
Ouais, beaucoup de sang-froid, pas comme un international français qu'on ne citera pas ici, qui joue à l'Atlético de Madrid.
Ah non.
Voilà, qui s'appelle
mais il y a une image assez marquante, c'est la joie presque extatique de Jürgen Klopp, quoi, parce que à la base, ils n'avaient aucune inquiétude contre les Rangers, oui. Qui finiront dernier de toute façon. Quoi qu'il arrive, à
on
mon avis,
en
sa
débutant
poule,
ouais.
Qui ont quand même une
il est tellement content, mais parce que ce Liverpool, ça ne va pas quoi, en championnat.
Le moindre petit succès te fait
voilà,
du bien.
Le moindre petit succès, ça les rend. Ouais. Ça les fait sauter au plafond.
Ouais. Naples premier, Liverpool deuxième, l'Ajax troisième dans ce groupe et les Rangers dernier avec 0 points. On continue donc parce qu'il y avait quand même une équipe française qui jouait ce soir. Elle jouait en début de soirée.
Deux possibilités, Under, Alexis.
Oh et Alexis, et ça marche. Et le but de l'OM, le premier but de l'OM dans cette campagne 21-22. Signé Alexis Sanchez, récompensé de son pressing, le Chilien. 14e minute, l'espoir René pour l'OM.
Son dégagement, il est bon.
Allez, la tête à Minarit. La tête
bon
à Minarit.
Bon.
Et là, il n'y a pas de hors-jeu. 16e minute, l'OM mène maintenant 2-1, les 3 minutes renversantes de l'Olympique de Marseille.
Ça devient plus intéressant.
Harit, c'est rentrant,
allez,
c'est bien.
Oui, et magnifique,
voilà,
magnifique, même Balerdi s'y met. Et l'OM mène 3-1.
Il est passé, il a transpercé.
Allez.
Et peut-être le quatrième.
Allez,
et le quatrième.
Voilà,
et le quatrième de Chancel Bemba, l'ancien joueur de Porto qui marque face au Sporting. 4-1.
Un hymne qui a résonné dans une ambiance glacée, non pas au thermomètre à Marseille, mais parce que les tribunes étaient vides et la petite musique faisait écho. Mais si les supporters avaient été là, bien ils auraient sûrement apprécié le spectacle. Enfin, l'OM a joué et enfin, l'OM a gagné un match de Ligue des Champions. Score donc 4-1. Alors, la rencontre avait quand même un peu mal débuté, Franck. On s'est inquiété sur le coup. On s'est dit, mince, le Sporting marque à la 7e minute. Et puis, il y a eu donc tous ces buts de Marseille. Le défenseur congolais, Chancel Mbemba, qui a encore marqué ce soir sous les couleurs phocéennes, était satisfait de la prestation du groupe.
Je veux remercier tous mes coéquipiers parce que chacun de nous, on a donné à fond pour prendre les 3 points aujourd'hui. Si on a commencé avec les doutes, on a encaissé dans 1 minute, il fallait qu'on rentre dans notre match. Parce que cette match, c'est très important pour nous, il fallait qu'on gagne. On a mouillé notre maillot pour gagner. On va continuer à travailler parce qu'on sait très bien la finale, ça va être là-bas.
Il fallait gagner pour rester en vie, bien sûr, dans ce groupe, ou en tout cas avoir le droit de rêver d'un 8e de finale. Franck, est-ce que là aussi vous parleriez de solidarité du groupe ?
Ah oui, franchement. Franchement, parce qu'il a fallu vite se ressaisir. Hein. 52 secondes, vous prenez un but. D'abord, il ne fallait pas arriver en retard. Enfin, eux sont arrivés en retard pour le coup, mais ils ont vite marqué le Sporting Portugal. Et derrière, je trouve, ils arrivent à se sortir d'un truc assez compliqué.
Oui,
parce que tu encaisses ce but dans la première minute. Derrière, il y a une occasion de 2-0 que le gardien de l'OM annule. Mm-hmm. Et il y a le réveil à partir effectivement du premier quart d'heure. Ils égalisent et ensuite, ben voilà, ils font en sorte de construire ensemble. Ce succès, moi ce que j'ai aimé, peut-être qu'on va on va l'évoquer ici, mais j'ai aimé, tu vois, par exemple le pressing très très haut, ce bloc là qui n'a pas cessé d'empêcher d'empêcher le Sporting. Je pense que ça aussi ça a été un des éléments clés, ça avait été bien vu de la part de Tudor et ça a été bien exécuté et il s'impose avec voilà, une certaine marge. Ça aurait pu être encore plus large. Il y a encore des petites choses, petits scories à gommer.
Il y a des choses essentielles qu'on demande au club français quand ils jouent la Coupe d'Europe, c'est d'avoir l'esprit Coupe d'Europe.
Ils étaient en plein dedans. Hein.
Donc, ils nous ont énervés, les clubs français nous énervent depuis quelques saisons.
Ah bah Marseille, face à Francfort, avec un stade plein, ils nous avaient un peu énervés. Ils avaient été amorphes.
Le truc, c'est que... C'est pour ça qu'on va peut-être reparler de Bruges, mais j'en avais déjà parlé. Bruges, c'est une équipe moyenne, c'est une petite équipe. On va pas les insulter en disant ça. Mais ils ont l'esprit Ligue des Champions.
On les avait vus contre le Paris Saint-Germain
la saison dernière. Voilà, c'est tu perds, mais tu as tout donné. Et puis voilà. Ce qui fait que quand on a l'esprit Coupe d'Europe, quand on tombe sur une équipe qui n'est pas dans un grand soir, aujourd'hui le Sporting, parce qu'ils sont un peu meilleurs que ça, faut être honnête. D'abord, faut les jouer, faut les bousculer, faut les battre. Et si on peut leur en mettre 4, on leur en met 4. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Voilà, ils ont réussi de ce point de vue.
Voilà, c'est ça. On leur demandait ça. Après, pour la qualif, la deuxième, troisième place, on verra. Mais déjà, retrouver l'esprit Coupe d'Europe. Mais c'est un minimum. Quand on l'a...
Ils en étaient pas loin lors de la première journée contre Tottenham.
Oui, c'est pas suffisant. En fait, c'est pas suffisant.
Ils en étaient pas loin. On peut pas dire qu'ils ont pas insulté l'esprit.
Moi,
tu vois.
Je parlais de Bruges. Je pense que Bruges aurait battu cette équipe de Tottenham. D'accord. Alors que Tottenham était a priori favori.
En tout cas, quand même, il y a eu un tournant dans ce match. Et le tournant dans ce match, Franck, c'est ce que vous regardez aussi beaucoup.
La part le gardien.
Voilà, le pauvre gardien.
Le gardien
Antonio
espagnol et capitaine du Sporting. Ouais.
Alors, il a fait de grosses erreurs. Il est expulsé. Et son expulsion, effectivement, va coûter cher à ses camarades.
Mais avant ça, il y a des...
La relance, le premier but de Sanchez.
Oui, mais on le voit tout de suite. Les premières relances au pied, c'est des relances à peu près à 30-35 mètres. Ce n'est pas précis. Ça manque de concentration. Ça manque de plein d'ingrédients. Tu es quand même capitaine, tu es leader. Tu dois te faire attention. Ton équipe, à ce moment-là, est quand même avec un but d'avance. Et lui se déchire, les met en difficulté.
Une relance sur Sanchez qui marque le premier but.
Ça c'est idiot.
Qui relance Marseille.
Si il savait qu'il allait faire une relance longue, il aurait dû taper tout de suite.
Il tergiverse. Sur le deuxième, donc, qui est le ballon qui est récupéré et intercepté par Klaus.
Ouais, ouais. Un mauvais dégagement.
C'est une mauvaise relance, un mauvais dégagement.
Joli
centre. Et derrière, il ne se replace pas. Il ne se replace pas correctement. Harit, le Marocain, place la juste de la tête.
Et le troisième ?
Le troisième...
Son troisième geste,
une
malheureusement.
Sortie insensée de sa surface, parce qu'il y a déjà un défenseur sur le joueur de l'OM.
Mm-hmm.
Et il y a son deuxième coéquipier qui va couvrir la ligne. Donc, il n'y a aucun danger, il n'y avait aucun péril.
Et il joue le ballon de la main.
Ouais, il joue le ballon de la main.
De la main à l'extérieur de la surface. Donc, c'est pour ça qu'il est expulsé.
Rouge, ouais. direct, et donc entrée d'un jeune homme, donc franco-israélien.
Et les autres sont à 9, bien
voilà,
sûr.
Voilà, ils sont réduits à 9 joueurs de champ, effectivement. On fait sortir un joueur pour mettre un gardien, dont c'est le premier match dans la compétition. Et ça a été très compliqué pour ce jeune homme. Mais a priori, on va le revoir dès la semaine prochaine.
Hein. Alors, l'entraîneur Ruben Amorim a déclaré, eh bien, je n'ai pas besoin, je vous le traduis parce que c'est en portugais, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à Adan. Il nous a déjà sauvés tant de fois.
C'est très bien. Mm-hmm. C'est très bien.
Bah oui, parce que
tout le monde a vu, tout le monde a compris, pas la peine de l'enfoncer. Ça.
Exactement.
Ouais, je pense qu'il était malheureux, on l'a vu après en tribune.
Oui,
il a regardé le match, effectivement. Ouais. Le gardien de Marseille, en tout cas, Paulo Lopez, autre espagnol, eh bien, il évoque le match de son gardien adverse, ce fameux Antonio Adan.
Difficile la vie de le gardien, c'est comme ça. Tu peux choisir le match que tu joues, le match que tu joues bien. C'est la vie de le gardien. Je connais Adan d'Espagne, il est très très bon gardien. Pour faire sa passe, c'est la vie, il doit continuer. Le gardien, on sait que notre vie, c'est comme ça. Quand tu joues bien, tu es le meilleur. Quand tu fais une partie plus mauvaise, tu es le pire. Bah, c'est la vie.
Franck, solidarité.
T'en reviens, hein, français.
Oui, ouais, solidarité ouais. de gardien.
Franchement, il y a de la... Alors... Bien sûr, vous aviez noté qu'il est, c'est un compatriote, voilà. Mais ouais, il y a de la solidarité entre gardiens. Il va pas enfoncer le gardien adverse parce que lui-même, il est déjà passé par ces moments-là et il sait qu'à tout moment, ça peut arriver que tu peux te trouver sur un match. Alors, il vaut mieux se trouver sur un match que se trouver sur 4 ou 5. C'est une évidence et voilà, il sait que c'est le gardien. De toute façon, on va pas souligner quand tu vas faire la grosse perf, mais on va noter quand tu as raté un ballon, une sortie, voilà, qui ont coûté un ou plusieurs buts à ton équipe.
Observez bien une séance de tir au but. En général, il y a une connivence entre les gardiens. En général.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Se soutiennent. En général.
Tu vois, voilà, il y a ça. Il y a un profond respect parce que c'est une corporation à part. Et t'as beau être adversaire, tu fais partie de la même corporation. Et ça se ressent. Et à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas que chez les pros, c'est comme ça. Et tant mieux d'ailleurs, je trouve que c'est bien.
Ils ont une grande franchise quand ils s'auto-évaluent les uns par rapport aux autres, en général.
Ouais.
L'OM, en tout cas, toujours en vie. Et c'est bon, ce résultat pour l'indice UEFA. Autre
contre
match.
Un club portugais.
Il y a un truc qui est bon, qu'on n'a pas souligné, les amis. C'est quand même l'OM, bravo à ses Africains. Oui.
Chancel Mamba, donc
Chancel qui est tout simplement exceptionnel, je trouve, depuis son arrivée. Amin Harit. Ils étaient 5 hein, à l'arrivée. Mm-hmm. Amin Harit, on a eu Pape Gueye qui est entré aussi. Mm-hmm. Eric Bailly pour la Côte d'Ivoire. Et puis Issa Kabore qui est entré en seconde période, le Burkinabé, qui a fait 2-3 jolis centres, qui a participé. Bravo à l'OM qui fait confiance aux joueurs africains et qui les fait jouer. Ça, c'est bien. Ce n'est pas le cas de tous les grands clubs européens français.
Et puis dans ce groupe, ce qui a peut-être pu aider un petit peu Marseille, même si Marseille reste dernier du groupe avec 3 points, c'est que Tottenham et Francfort se sont neutralisés. Match nul et sans but, 0-0
nul
à Francfort.
De nul.
Ça avait l'air d'une tristesse.
Heureusement ouais, qu'il y en avait beaucoup d'autres à regarder.
Non, on n'a rien regardé. Non, mais bon, quand il ne se passe rien, il ne se passe rien.
Rien à dire.
Mais en tout cas, voilà pour ce qui est. Et le Sporting, qui était en tête avec 2 victoires, à 6 points. Donc ça s'est resserré dans ce groupe. Et si l'OM réussira.
Quand je parle des sports européens, il va falloir profiter de ça. Je veux dire, ce Tottenham est jouable, ce Francfort est jouable, donc il faut se ressaisir.
Et puis pour signaler aussi que donc on y reviendra demain dans Radio Foot International, mais le FC Porto l'a emporté 2-0 sur le Bayer Leverkusen et le FC Bruges, lui, toujours en tête de son groupe, hein, Porto est deuxième désormais, avec 2-0 sur l'Atlético Madrid et donc le malheureux Griezmann qui a raté un pénalty. Évoquons le match de demain de l'autre équipe française. Alors, il est là-bas, évidemment, à Lisbonne, Lionel Messi, et ce sont des supporters de Messi qui étaient sous les fenêtres de son hôtel et qui chantaient ses louanges. Le Paris Saint-Germain jouera donc à Lisbonne contre le Benfica, une équipe qui se débrouille plutôt bien dans son groupe pour l'instant, le Paris Saint-Germain, mais ils sont en tête, hein, les Parisiens, 2 matchs, 2 victoires. Le Benfica est au même nombre de points. Et vous allez l'entendre, Christophe Galtier est sur la défensive.
C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, est invaincue et très intéressante à avoir joué, très bien organisée, avec de la qualité à la fois individuelle, mais aussi une force collective importante. Et Aujourd'hui, Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe-là. Et battre Benfica, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression et qui va souvent venir nous chercher. C'est un peu dans l'ADN à la fois du club, mais aussi de leur entraîneur. Et quand on aura les opportunités d'être beaucoup plus efficace que ce que nous sommes ces derniers temps.
Les deux équipes qui se détachent, hein, Franck, le Paris Saint-Germain et le Benfica, puisque les deux autres équipes ont zéro. C'est la Juventus en plus.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce message, on peut le lire de deux façons, c'est-à-dire un message délivré... envers les médias qui s'ennuient l'écouter, mais c'est surtout destiné aussi à ces joueurs. Attention, vous vous souvenez du dernier match, la sortie à l'extérieur, où ça a été compliqué en Israël. Donc il faut faire attention à cette équipe qui est redoutable, qui a de la qualité, qui a des ambitions dans ce premier tour. Et le Paris Saint-Germain ne se balade plus depuis quelques temps. Ils font de la perf, ils font des résultats, mais ils ne se baladent pas comme au tout début de la saison. Et je pense que on va suivre ce déplacement.
On y reviendra demain dans Radio Foot International dans la première émission. Mais je vous propose de réécouter notre débat autour de Paris qui ne diffusera pas les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Le mondial au Qatar, pomme de discorde internationale ou de discussion en tout cas, mais aussi une pomme de discorde parisienne. Alors après de nombreuses villes européennes, comme en Belgique, lorsque nous y étions pour faire l'émission, on se souvient que la ville natale des frères Hazard avait décidé qu'elle ne retransmettrait pas les matchs de la compétition mondiale. Après Barcelone en Espagne, en France, il y a eu une cascade d'annonces, Lille, Marseille ou encore Bordeaux, Strasbourg et hier Paris. Paris où il n'y aura donc pas non plus d'écran géant pour retransmettre la Coupe du Monde visée. Le Qatar, mais surtout la compétition qui mobilise les critiques sociales et écologiques. Alors, ce qui est important de signaler quand même, c'est que nous sommes dans l'hémisphère nord européen et que c'est une compétition placée en hiver. On imagine mal, David Lortolari, des écrans géants quand il fait, en novembre ou décembre en Europe, il peut faire 5 degrés, il peut neiger. Suivre les matchs en plein air, c'est quand même pas la même ambiance. C'est peut-être une solution de facilité. Il y aurait peut-être eu peu de monde.
J'ai observé, Annie, comme vous, effectivement, les diverses moqueries sur ce sujet les derniers jours, mais je suis pas, vu d'Allemagne, je suis pas d'accord avec ça, puisque les meilleures ambiances, c'est au mois de décembre, avec une petite tasse de vin chaud avec bien habillé, bien équipé, on peut regarder un match. Alors on va avoir froid, c'est sûr, mais ça peut être tout aussi sympathique qu'en plein été. Donc j'ai dit ça sans aucune mauvaise foi. Je pense que cet argumentaire il est un peu
non mais c'est pas ce qui est avancé.
Il fera pas forcément moins 10 en plus par ailleurs.
Non pas forcément, on peut avoir une espèce de d'été indien, on va dire. En tout cas, la décision qui fait parler, c'est celle de la mairie de Paris, car la ville lumière, tout le monde le sait, abrite le Paris Saint-Germain ou le Qatar Saint-Germain, comme certains s'amusent à le surnommer. Alors écoutons l'adjoint à la mairie de Paris, David Bayard.
Qu'est-ce qu'on boycotte aujourd'hui ? On boycotte pas le PSG, on boycotte un événement. L'événement, c'est, en tout cas, et on le boycotte, qu'est-ce que ça veut dire le boycott ? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas installer, on ne va pas faire la promotion dans l'espace public parisien, comme par exemple à Strasbourg, à Bordeaux ou à Lille, par exemple. Eh bien, on ne va pas faire la promotion de ce type de cet événement pendant qu'il va advenir. Voilà, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas que, et c'est la position de Paris, on ne dit pas on est contre le Qatar, on est contre le type d'événement. Dans ces conditions-là. Voilà, c'est ça en fait qui est dit.
Ce qui est dit, c'est cela.
Vous avez compris quelque chose à ce qu'il a dit ? Parce que moi, pas du tout.
Oh, il a dit on n'est pas méchant. Contre le Qatar. Il a dit.
Non, mais ouais. Justement, c'est un espèce de numéro d'équilibriste, donc d'homme politique, qui essaie de justifier, je ne vais pas dire l'injusticiable, parce que finalement, pourquoi pas, ne pas accueillir donc, ces fan zones, ne pas mettre d'écran géant. Mais quand vous êtes le responsable d'une mairie, d'une ville qui a fait le lit du Qatar pour venir investir et en faire le club le plus riche du monde, sans jamais aucun commentaire sur savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au Qatar, la condition des femmes, la condition des travailleurs immigrés. Donc franchement, cette mauvaise foi est absolument détestable.
Justement, on a ce qu'il faut pour aller dans votre sens, Étienne Moati. C'est la mère Anne Hidalgo qui va très souvent au stade. On la voit en tribune.
En fait, c'est ma mère, je vis à Paris,
Moi aussi, c'est ma mère. Ouais. Et en 2015, sur RTL, avec notre confrère Jean-Michel Apathy, elle parlait ainsi des propriétaires du Paris Saint-Germain.
Ce que je peux dire sur Paris et sur la relation que l'on a avec le PSG, avec le patron du PSG, eh bien, c'est une relation extrêmement, d'abord positive, très, très forte. Moi, je les remercie d'avoir mis le club de Paris au niveau auquel il est. Et puis, dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Donc, écoutez, voilà, je suis heureuse de cette collaboration. Avec eux.
Voilà, on entendait Jean-Michel Apathy, donc elle ne dit pas le mot Qatar, on l'a tous noté. Étienne, est-ce que c'est un paradoxe de la part de Paris, particulièrement ? Parce qu'on a parlé, les autres villes, bon, on dit Barcelone, alors que le Barça est lui aussi beaucoup financé par la publicité du Qatar. Enfin, on a beaucoup de clubs, à l'heure actuelle, liés à cet Émirat.
Enfin, plus que la mairie de Paris, il n'y en a pas beaucoup quand même, avec l'investissement qui a été fait par QSI, le fonds d'investissement.
Je crois que c'est plus d'un milliard actuellement.
Dans le Paris Saint-Germain, mais en effet, de toute façon, d'autres villes françaises et l'économie française en général donc, bénéficient donc, de fonds qatariens. Il y en a énormément et dans les plus grandes entreprises françaises du CAC 40.
Dans l'immobilier.
Le football sert, mais on est un peu habitué à ça, donc à se donner bonne conscience et à faire des luttes donc, en faveur des droits de l'homme, finalement, à peu de frais. C'est ce qu'on fait à peu près tous les politiques depuis quelques semaines. Et puis surtout, se réveillant à deux mois du démarrage de la Coupe du Monde, quand l'attribution a eu lieu...
En décembre 2010.
Exactement. Donc, on avait envie d'entendre tous ces gens-là à ce moment-là. Et donc, refuser cette attribution, demander à l'État français de se prononcer. Non, voilà. On peut être d'accord, d'ailleurs, avec le discours de ces villes-là. Mais on peut aussi considérer que c'est quand même un peu tard et un peu facile aujourd'hui.
Marc ?
Le discours me dérange parce que j'aurais aimé un petit peu de franchise de nos politiques français. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est encore une enfumade, quoi, comme on dit à Marseille. Parce que quand on nous raconte ce genre de choses, j'aurais préféré qu'on nous dise aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de gérer une fan zone. On est incapable. La plupart des villes françaises ne peuvent plus gérer une fan zone de 5-10 000 personnes. Ils ne sont pas capables. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des importances où les gens n'arrivent plus à manger. On va nous expliquer qu'il y a bientôt plus de chauffage et qu'on va devoir couper. Certaines communes, je fréquente des maires qui nous disent aujourd'hui, on ne sait même pas si on va allumer le chauffage pour des écoles, pour des enfants. Donc là, quand on me dise, voilà, vous comprenez, on ne peut pas gérer. On a des priorités, le chauffage, certains bailleurs sociaux, ça va être difficile de... Qu'on nous raconte ça, mais qu'on m'explique pas. Ah non, mais vous comprenez, je ne veux pas...
Oui, parce que c'est une aberration géante. On pense à la sobriété demandée cette année, effectivement, brancher les écrans géants et mobiliser...
Non, mais c'est surtout que certaines communes vont payer 3, 4 ou 5 fois plus cher leur consommation par rapport à ce qu'ils payaient avant en électricité pour une ville. Donc,
justement, ça devient ingérable. Justement, ça peut rentrer aussi dans le raisonnement.
Que l'on me dise ça, je peux comprendre, mais pas cette genre de bêtises.
David Lortolari, il y a aussi une chose. Alors, les élus ne n'insistent pas beaucoup là-dessus, pourtant, à Paris, mais il y a une réalité. En tout cas, nos confrères soulignaient que le PSG sous pavillon qatarien, c'est 182 millions d'euros en impact économique pour ce qui est de la région Île-de-France. Et ce sont à peu près un peu plus de 2000 emplois indirects qui sont générés aussi dans la région. Donc tout cela, on disait bienvenue aussi aux capitaux qatariens.
Ah mais c'est sûr. Après, les deux camarades l'ont très bien dit, les initiatives collectives qui consisteront... Mais on peut le dire franchement, comme le réclame Marc, les initiatives collectives qui consisteront à réduire de la consommation, à avoir un comportement responsable et raisonnable, très bien, d'autant plus qu'on a souvent tendance à aller chercher les individus pour faire des efforts et peut-être moins les collectivités. Donc là-dessus, très bien. Y a une autre chose sur laquelle il faut qu'on se méfie, qu'il n'y ait pas aussi ce même genre de surf. Ce sont les Jeux d'Asie, d'hiver, qui ont été attribués aujourd'hui ou hier, en 2029, à l'Arabie Saoudite. Pareil, là, on va pouvoir aussi, sans avoir ce caillou dans la chaussure du Qatar qui investit à Paris Saint-Germain, pouvoir peut-être... se plaindre, pouvoir peut-être, à défaut de se plaindre, faire une campagne en disant c'est peut-être un peu ridicule. Mais évidemment, Annick, les investissements sont massifs partout. Dans toutes les rues de Paris.
Étienne Moitié, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière finalement une certaine critique à ce que devient finalement le football et notamment ce football business qu'on entend quand même beaucoup dénoncer, et même si on continue à le suivre et à en parler, mais un peu ce rejet finalement, et on se dit là, ça va très loin, et notamment avec ce championnat. C'est vrai que tout le monde se dit, ah bon, il y a une Coupe du Monde, mais c'est en plein mois de novembre d'habitude, effectivement, le côté mois de juillet, les vacances, on a un peu le temps.
Oui, c'est vrai que le football business n'a pas attendu l'arrivée du Qatar en 2011 au Paris Saint-Germain pour exister. Et de l'argent, sale dans le foot, et il y en avait bien avant eux.
Bien sûr.
Et c'est vrai que cette attribution de Coupe du Monde au Qatar, qui est un pays où il n'y avait aucune identité de football, où il n'y avait pas de stade, où il n'y avait pas de possibilité de l'organiser en été quand normalement se dispute la Coupe du Monde, où il faut climatiser des stades, où il faut aller loger les spectateurs dans d'autres pays. Il y avait tellement peu de raisons, à part l'argent, d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar, forcément, ça a cristallisé dans une espèce de ridicule du football dans lequel il se met. Mais comme aujourd'hui, il n'y a pas que le football qui se met dans ces situations ridicules, ça vient d'être dit, le CIO aussi, donc, va chercher l'argent là où il se trouve et se vend au plus offrant. Donc, on peut en effet avoir peur que ça détourne un petit peu, même si, bon, le football en a vu d'autres, mais que ça détourne un certain nombre de personnes du sport en général et du football en particulier.
Oui, parce que David faisait allusion à ces jeux d'hiver donc asiatiques qui sont attribués à l'Arabie Saoudite, on sait que actuellement...
C'est une grande logique. Franchement, les Jeux Olympiques d'hiver à l'Arabie Saoudite, non mais je plaisante, c'est comme le Qatar. Enfin, ça paraît presque une blague, surtout cette attribution arrivant quelques semaines avant le démarrage de la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'ils ont choisi un très bon timing pour que ce ne soit pas relevé.
Et on sait que l'Arabie Saoudite aimerait ou rêverait, en tout cas Infantino le sous-entend suffisamment, organiser une Coupe du Monde un jour.
Mais oui, de toute façon, ça va à celui qui donne le plus d'argent, puisqu'il faut dire aussi c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont aujourd'hui des difficultés à organiser des grandes compétitions.
Surtout qu'il y aura de plus en plus d'équipes. Hein,
que ce soit des Coupes du Monde de football, des Euros ou des Jeux Olympiques, la France va bien payer dans peu de temps pour savoir que ce n'est pas évident à organiser, que ça coûte beaucoup d'argent. Donc évidemment, ces pays-là, donc, où on respecte très peu la démocratie, mais où on a beaucoup d'argent, finalement, les institutions du sport vont là où il y a l'argent.
La FIFA a fait une grosse erreur. Ils étaient tous contents en 2010. Je me rappelle, on avait commenté les images. Voilà, c'est le Qatar. Tout le monde levait, tout le monde était content.
Avec des stades réfrigérés en plein été.
Mais c'est ce qu'ils avaient déjà annoncé à l'époque. Mais à l'époque, ça n'intéressait personne. Il y avait aussi des personnalités politiques françaises qui étaient montées au créneau. Des sportifs français étaient montés au créneau pour le Qatar.
Mais pas que donc aujourd'hui, parce que c'était non, pas mais un
bien
vote.
Sûr. Donc maintenant, on est tout le monde est outré. Oh, on comprend pas. Oui, mais bon,
c'est ça.
Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Et d'un coup, ils sont plus contents. Ils se disent, ah non, finalement, c'est pas bien. Ah ouais, c'est pas bien, mais vous étiez tous d'accord à l'époque.
Nous qui travaillons avec le football régulièrement, on savait que cette échéance qatarienne, c'est ça qui surprend un peu même. C'est dans la chronologie.
Et cette
ça
façon
fait très
aujourd'hui
longtemps.
De culpabiliser donc,
les footballeurs.
Les footballeurs eux-mêmes. Les fans de football qui ont quand même envie de voir cette Coupe du Monde, c'est pas eux qui l'ont attribué au Qatar. Ils vont devoir se justifier à chaque fois qu'ils regardent un match. C'est assez détestable.
Je terminerai par un proverbe sénégalais, puisque c'est un Sénégalais qui l'a laissé sur notre page, Cheikh Tidjane Gueye, sur notre page Facebook, qui nous dit « On ne peut pas détester une poule et aimer ses poussins ». Alors je vous laisse philosopher là-dessus. Vous avez une semaine jusqu'à ce que vous reveniez.
Je vous demande de voir la semaine prochaine.
Voilà, messieurs, et c'est donc la fin de ce Radio Foot International, cette soirée Ligue des Champions, avec, je vous le rappelle, parmi les résultats frappants, eh bien, c'était ce match incroyable entre l'Inter Milan et le Barça, avec la victoire de l'Inter sur le score de 1-0. On a eu aussi le Bayern qui s'est imposé face à Plzen sur le score de 5-0. Et puis l'OM qui, eh bien, sur 18 matchs disputés en Ligue des Champions, aura désormais 2 victoire sur le score de 4-1. Merci Franck.
Merci Annie.
Et merci beaucoup cher Yves Guémour.
Merci Annie, bonsoir à tous.
Bonne fin de soirée.
Et nous on se retrouve demain en première et en deuxième partie de Radio Foot International. RFI.